Et avec Daniel Habert, on va revenir bien sûr sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran, négociations qui sont interminables apparemment. On en parle donc avec notre géopolitologue et chroniqueur sur Radio Judaïka, Daniel Habert, qui répond comme toujours, quasiment, aux questions de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors Daniel, jeudi, la Maison-Blanche a confirmé que les négociateurs américains et iraniens étaient parvenus à un accord sur un protocole qui prolongera le cessez-le-feu en cours de 60 jours. On est en attente, hein. On est sur une certaine période de latence, mais qu'est-ce qu'on attend en fait?
Écoutez, dans les conversations précédentes, on attendait guerre ou paix, en gros, hein, négo ou reprise des bombardements. Je crois que la messe est dite, j'ose dire, à savoir que les Américains ont renoncé à l'idée de rebombarder. Et j'essaie d'expliquer quand même pourquoi, pour que ce soit clair dans l'esprit actuel, qui est un esprit de négociation, même si ces négociations, on va le voir, sont pas faciles. Si vous voulez, dans l'esprit américain, c'est qu'est-ce que je peux faire en bombardant? Et il n'y a pas de réponse convaincante. Il n'y a plus de cible militaire qu'on n'ait pas déjà atteinte. 16 000 cibles dans les premiers jours. Et s'attaquer aux cibles civiles, c'est à la fois officialiser un crime de guerre, ça c'est vrai, et deuxièmement, s'en prendre au fond directement à la population iranienne qu'on est supposé vouloir aider. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de cibles convaincantes, et on sait de toute façon que même en bombardant copieusement l'Iran, elle ne cédera pas, le régime ne tombera pas, et ils ne céderont pas, ils résisteront jusqu'au dernier iranien, parce que ce sont des islamistes et que ce sont des fanatiques. Et puis en face, il y a cette capacité de dissuasion iranienne. Il y a une part d'ignorance, mais je crois qu'elle est crédible. Aujourd'hui, on sait que si on bombardait, on aurait en retour des bombardements qui pourraient faire des dégâts extrêmement sérieux sur les pays du Golfe et même sur Israël. Donc il y a quand même tout ça vient renforcer l'idée que aujourd'hui l'idée de négociation l'emporte largement sur l'idée de avoir recours à la force.
Oui. Alors justement, Daniel, dans quel contexte est-ce qu'on négocie en ce moment?
Alors on dit aussi toujours sur ces fameux critères que je rappelais dernière fois, à savoir le temps. Alors est-ce que le temps, quel est le temps au fond? Et on pourrait le découper en trois temps, le temps démocratique, le temps économique et le temps militaire. Le temps démocratique, c'est le temps des Américains, le temps économique, ça concerne la Terre entière, et le temps militaire, ça concerne Israël. Donc revoyons-le rapidement. Le temps démocratique, c'était les Iraniens se disent Trump est sous pression, il y a les élections bientôt, il va devoir céder. Et Trump, qui a bien compris ça, dit moi je me moque des élections à midterms, elles se joueront pas sur les questions extérieures, j'en ai pas peur. Donc il se débarrasse de cette pression du temps. Il reste la pression économique. La pression économique, c'est la fermeture du détroit d'Hormuz. Plus ça va, plus les Iraniens souffrent, mais plus le monde souffre, et en particulier plus une crise économique mondiale à partir de pénurie d'énergie risque d'arriver. Et là, tout le monde a peur, à commencer par les alliés asiatiques des Américains, les Japonais, les Coréens, Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande, tous ces pays-là commencent à souffrir, ils sont tous dépendants du détroit d'Hormuz, et donc ils font pression. Ça, c'est le temps économique. Et il reste le temps militaire, ça concerne Israël. Israël a besoin de temps pour terminer le travail. On voit que le travail au sud Liban est un travail de fond. On a déjà franchi, l'armée israélienne a déjà franchi le Litani, on est déjà au-delà, on est dans des grandes opérations militaires, en même temps qu'il y a des opérations diplomatiques entre Israël et le Liban officiel, pas le Hezbollah. Et donc, on voit que l'élément temps, il joue un petit peu des deux côtés. Et donc, il est possible que la conclusion d'un accord prenne du temps, justement, parce qu'au fond, chacun s'est donné un petit peu de temps. Sur la relation de force dont on parlait aujourd'hui, à partir du moment où les Américains ont renoncé à envoyer des soldats, des débarquements, tout ça, on n'en parle même plus, c'était illusoire, amener plus d'avions, amener plus de porte-avions, pour détruire des cibles qu'on n'a même pas identifiées. Tout ça n'a pas de sens. Donc, la capacité de dissuasion iranienne, elle est crédible, et donc la relation de force, elle reste assez équilibrée. Il reste la composante Chine, et la composante Chine, elle est là dans les négociations.
Négociation justement, Daniel. Autour de quoi tournent ces négociations? Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on négocie, mais quel est l'enjeu, quel est l'impact de ces négociations?
Écoutez, d'abord, c'était très clair. À un moment donné, les Iraniens ont dit, parlons d'abord du détroit d'Ormuz et donne-nous le temps de parler plus tard du nucléaire. Les Américains, dans un premier temps, ont refusé, mais finalement, ils ont compris que c'était aussi leur intérêt. D'abord, débloquer le détroit d'Ormuz, ça peut permettre à toutes les parties de se déclarer gagnants. Y compris les Américains qui risquent, dans cette négociation sur laquelle je vais revenir tout de suite, ils risquent de la payer cher. Mais vous savez, le jour où on aura débloqué le détroit de Hormuz, vous aurez un immense soulagement mondial de tous ces gens qui se disent, je paye mon pétrole trop cher, mon essence trop cher, etc. Je peux pas préparer mes vacances, mais à l'étranger, etc. parce que je suis pas sûr que les avions auront du kérosène. Tout ça, ça génère une angoisse au niveau mondial, y compris d'ailleurs en Israël et chez les Juifs qui veulent aller passer les vacances en Israël. Donc tout le monde sera soulagé. Et même si ce sera un mauvais accord parce que les Américains l'auront payé trop cher, ce sera vendable, en gros. Et là, quant à la reprise plus tardive sur le nucléaire, au fond, on a un peu de temps devant nous. D'abord parce que le programme nucléaire iranien a été touché sévèrement et que sur le long terme, il a perdu plusieurs années. Il reste juste la question de ces kilogrammes d'uranium enrichi qui peuvent permettre à l'Iran de créer, ça c'est sérieux, quelques bombinettes qui peuvent faire beaucoup de mal. Et ça, c'est là-dessus que se concentrera la négociation sur le nucléaire. Mais tout ça peut attendre. Donc finalement, c'est le détroit d'Ormuz qui est l'objet de la négociation. Les Iraniens demandent beaucoup, et en particulier ils demandent de l'argent. Ils demandent soit la levée des sanctions, soit le remboursement de 24 milliards qui sont bloqués dans tel ou tel compte, etc. Donc c'est une négociation de marchand de tapis, etc. Mais il y a un pays qui a besoin de ce déblocage, mais qui ne le dit pas trop fort, c'est la Chine. Et la Chine donc se cache derrière un autre pays qui est devenu un médiateur important et dont on n'a pas beaucoup parlé ici, et j'espère qu'on a quelques minutes encore pour en parler, c'est le Pakistan.
Ouais, justement, hein, Daniel, on a 3 4 minutes pour en parler. On en parle beaucoup, hein, du Pakistan, dans les médias. Ils sont au centre de ces négociations. Quel est le rôle de ce pays? Pourquoi est-ce qu'il s'immisce dans ces négociations?
Et pourquoi est-il le médiateur idéal? D'abord parce que c'est un grand pays. 240 millions d'habitants, c'est la sixième population mondiale, c'est un pays qui compte. Il est possesseur de la bombe atomique. Donc c'est un grand pays. C'est un pays musulman. Et il est à 80% sunnite, mais il est à 20% chiite. Il a une frontière avec l'Iran, mais il a une frontière avec la Chine. Et en même temps, il est l'allié militaire des Américains. Les Américains lui fournissent des armes, de l'information, de la formation, lui fournissent de l'aide économique. C'est un soutien, il est soutenu par les États-Unis, mais en même temps, c'est un grand partenaire économique de la Chine. Vous savez que le grand projet de Xi Jinping, c'est les routes de la soie. Une des routes de la soie, elles sont plusieurs, une des routes de la soie traverse le Pakistan du nord vers le sud. Ce sont des voies ferrées, des autoroutes qui vont traverser le Pakistan du nord au sud, qui vont aboutir à un port au Pakistan, Gwaïdar, dont personne n'a jamais entendu parler, parce que le grand port sur l'océan Indien du Pakistan, c'est Karachi. Non, là, c'est un port à côté, qui est un peu pour les Chinois. Et les Chinois dépensent beaucoup d'argent. C'est tout ça est déjà en cours de réalisation. Et donc, beaucoup des marchandises chinoises qui sont destinées à l'Europe passeront, éviteront le détroit de Malacca. Vous voyez qu'on parle de plus en plus des détroits. Et donc le détroit de Malacca, c'est un casse-tête pour les Chinois. Ça l'évite en passant par les voies terrestres et ça arrive directement dans l'océan Indien, et là, ça va dans le monde entier. Donc, si vous voulez, le Pakistan, c'est un pays qui est acceptable par tous. C'est une démocratie, c'est pas une démocratie très très exemplaire. Il y a eu beaucoup de coups d'État, il y a eu beaucoup de premiers ministres qui ont été soit assassinés, ce fut le cas de Benazir Bhutto, soit qui sont en prison, comme le précédent Imran Khan, qui était champion de cricket et qui est devenu la premier ministre du Pakistan, qui est en tôle. Et donc, c'est un pays qui est acceptable par l'Occident. Et puis, c'est l'intérêt du Pakistan aussi, qui a déjà le gros problème économique, de ne pas en ajouter. Et donc, et en plus, les Pakistanais ont une menace islamiste au nord, au nord-ouest du Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan. Et donc, il est en lutte contre l'islamisme mondial. Donc, ça en fait donc un médiateur crédible par tout le monde, y compris donc de la Chine. Et je pense qu'il est le messager des demandes chinoises auprès de l'Iran.
Daniel Habert, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Et puis on reviendra évidemment sur ces négociations parce qu'elles ne sont pas prêtes de se terminer. En tout cas, c'est ce que l'on comprend. Merci, on se retrouve lundi prochain.
À la semaine prochaine. Au revoir.